enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Il est mis en pratique, se ressemblable à un homme prudent qui a une maison. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les rues étaient contre cette maison. Elle n'est pas fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti son bé. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Baissons la tête ensemble. Et bon Père Céleste, c'est avec un cœur rempli de joie et de remerciement que nous sommes réunis ici ensemble, debout humblement devant toi, Seigneur, pour te remercier. Te remercier premièrement pour ton salut, Seigneur, que tu as pourvu pour nous sur la croix. Pour te remercier, Seigneur, que non seulement que nous sommes tes enfants et que nous avons ce privilège d'être membres de la famille de Dieu, mais nous te remercions, Seigneur, qu'on peut venir devant toi aussi pour demander au Dieu que tu puisses nous éclairer par l'onction de ton Esprit Saint sur ta parole, Seigneur, et que cette parole puisse pénétrer dans nos cœurs et porter beaucoup de fruits, surtout dans nos foyers. Nous savons, Seigneur, que Satan attaque les foyers, c'est ici, Seigneur, il veut détruire les foyers. Mais nous te remercions, Seigneur, qu'en appliquant la parole, Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, Seigneur, en s'appuyant sur ta parole, Seigneur, que nous sommes protégés et que nous sommes plus que vainqueurs. Mais, Seigneur, nous demandons que tu puisses nous donner cette connaissance, cette sagesse, Seigneur, ce discernement, dans le but de connaître ta volonté, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toute notre famille, Seigneur, et pour notre vie, car nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier, Jésus, dans tous les aspects de nos vies. Nous demandons ces choses dans ton divin nom. Et tout le monde dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, merci. Voyez que l'étude est sur le foyer chrétien, mais le titre de l'étude est « La maison sur le roc ». Et les versets que je viens de vous lire présentement, c'est des versets qui se trouvent être applicables, non pas seulement le 2000 ans quand Jésus les a cités, mais dans notre vie aujourd'hui. Et Jésus a dit ceci. Il dit, « Celui qui entend ma parole et la met en pratique est semblable à celui qui bâtit son foyer ou sa maison sur le roc. » Puis il dit, « Celui qui va négliger la Bible ou la parole de Dieu, il dit, « Il est semblable à un insensé qui bâtit son foyer sur le sable. » Et puis pour les gens qui sont nouveaux ici parmi nous, j'aimerais que vous dire que tout ce qui va se dire pendant ce séminaire de ce soir et la journée de demain va toujours être appuyé par la parole de Dieu. Car celui qui entend la parole et la met en pratique, et c'est ça qu'on va apprendre ensemble cette fin de semaine. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous enseigner concernant un époux, épouse, père et mère d'enfants, et aussi comment qu'on devrait s'organiser dans la relation de nos vies, dans notre foyer, et puis comment nous puissions y avoir du succès. On va l'apprendre ensemble ici pendant ce soir et la journée de demain. Et une chose que je dois mentionner aussi, que j'ai la réputation pour le dire, que je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, je suis un pasteur qui étudie la parole de Dieu et qui a eu d'expérience pendant plusieurs années à conseiller avec des gens qui ont des problèmes dans le foyer, et j'ai toujours remarqué que ce n'est immanquable qu'à chaque fois qu'on a conseillé avec les gens qu'ils avaient des problèmes et qu'ils ont appliqué les principes bibliques dans leur vie, ont toujours eu de réussite. Personne n'a la réponse pour les problèmes maritaux comme la Bible. C'est pour cela qu'il faut revenir à la Bible. Moi, savez-vous, si vous parlez à ma femme, puis à vous lui demandez qu'est-ce qui est la plus grande faiblesse de Pasteur Sam, elle vous répondra probablement son impatience. Et puis, quand on parle de la Bible, il faut réaliser que la Bible est un manuel d'instruction. Dieu nous a créés, et il ne nous a pas laissés sans instruction et sans défense. Et il nous a créés, puis il nous a donné un manuel d'instruction qui est la Bible. Et celui qui va entendre la Bible et la mettre en pratique, il va bâtir sa maison sur le roc. Et toute personne de la société qui se trouve à rejeter le plan biblique est comme un insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Ça nous dit bien d'ailleurs, que le vent va venir, la tempête va venir, la pluie va venir, il va y avoir des mauvais temps, il y en a dans chaque foyer. Mais celui qui est bâti sur le roc, il va subsister. C'est ça qui est bon. On va avoir des difficultés, mais on va toujours passer en travers. Fait que je reviens à mon impatience et le manuel d'instruction. La Bible est un manuel d'instruction. Puis moi, lorsque il n'y a rien qui se trouvait à mériter autant, lorsque ma femme acheta un jouet dans le temps de Noël pour mon garçon Mark, et puis le jouet arriva d'une boîte à 1000 morceaux, et puis avec les instructions, comment monter le jouet. Et puis, j'avais toujours l'habitude d'essayer de monter le jouet sans lire les instructions. Je n'avais pas la patience de le lire. Je n'avais pas besoin de ça. Je pouvais le faire de moi-même. Et après avoir monté le jouet, il me restait toujours 3-4 tarots dans les mains, puis le jouet allait tout croche. Qu'est-ce que j'ai été obligé de faire? C'est de redéfaire le jouet. Ça m'a pris beaucoup plus de temps. Tout le défaire, lire les instructions et le remonter comme il faut. Et j'aimerais que chaque personne ici réalise qu'il y a un message là-dedans. Que Jésus a dit, acceptez qu'une personne naisse de nouveau de l'Esprit de Dieu, il ne peut voir le royaume des cieux. En voulant dire, il ne peut comprendre le royaume des cieux. Il est allé plus loin, il a dit, acceptez qu'une personne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et puis, ça nous dit que personne ne peut comprendre la Bible dans son naturel. Il faut qu'il naît de nouveau de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait cette nouvelle naissance d'Esprit, le spirituel. Et quand on est de nouveau, c'est un peu comme j'ai expliqué avec le jouet. Le Seigneur ne met à rien, puis là, il nous rebâtit en neuf, et là, on sert du matériel d'instruction. Par l'Esprit de Dieu, là, on est éclairé et on sait où ce qu'on va. Et c'est une des raisons pourquoi on a des séminaires comme cela, et je fais des retraites de couples mariés un peu en travers de la province, et aussi même dans le Canada, dans le but d'expliquer aux gens qu'il va falloir revenir au manuel d'instruction et bâtir notre maison sur le roc. Et ce soir, pour la première session, c'est l'introduction qu'on appelle le mariage chrétien. Avant d'arriver au mariage chrétien ici, j'aimerais apporter votre attention sur ceci. Que la communication y fait beaucoup. On n'aurait pas le temps d'entrer dans la communication ce soir, et même pendant cette fin de semaine, mais je vous ai donné quand même une étude, abréviée si vous voulez, sur la communication. Mais la plus grande et première communication qui devrait se faire, c'est avec Jésus. Savez-vous que ça dit qu'une famille qui prie ensemble demeure ensemble? C'est bien important, ça. Et avant d'entrer dans l'étude à son entière, je veux vous dire quelque chose ici qui est bien important. Parce que si vous n'appliquez pas ce principe-là ici, ça ne sert à rien. Tout ce que vous allez apprendre, vous l'avez appris pour rien. Et vous allez bâtir quand même votre foyer sur le sable parce que vous n'auriez pas la puissance. Et vous n'auriez pas la puissance et la connaissance nécessaire, le discernement nécessaire d'appliquer les principes que vous allez apprendre cette fin de semaine si, premièrement, vous ne mettez pas Jésus le premier dans votre vie et dans votre foyer. Et puis, la seule façon que vous pouvez faire cela, après de l'avoir accepté comme sauveur et Seigneur de votre vie, c'est que chaque personne devra prier régulièrement. Et puis ici, j'ai juste dessiné une roue. Vous allez voir que je n'ai pas été appelé pour être dessinateur, mais j'ai dessiné une roue ici. Je veux juste vous montrer quelque chose qui est bien important avant qu'on commence notre étude. C'est l'affaire que vous voyez ici, ça c'est une roue, comme une roue de bicycle. Ça ici, c'est les rayons, les broches de roue de bicycle, si vous voulez. Le spokes, les broches, c'est ça. Et puis là, dans le centre, vous avez Jésus, la roue à l'intérieur de la roue. Remarquez que lorsque nous sommes près de Jésus, on est près un avec l'autre. Lorsque nous sommes éloignés de Jésus, on est éloignés un de l'autre. Puis si vous voulez être près de Jésus, il va falloir communiquer. Ça veut dire prier chaque jour. Si vous voulez être près un avec l'autre, il va falloir vous communiquer chaque jour aussi, un avec l'autre. Puis lorsque vous communiquez avec Jésus, vous allez communiquer entre mari et femme. Et c'est pour cela que je vous ai donné là, les instructions de communication. On appelle ça la mauvaise douzaine, en voulant dire qu'il vous montre quoi pas faire ou ne pas dire. Des choses qui sont un peu choquantes. Je vais peut-être juste vous le montrer ici, si vous l'avez, et puis on va juste les regarder ensemble, mais on ne passera pas à l'étude. Ça, c'est une étude qui peut durer quelques jours même, juste sur ce côté-là. Moi, j'ai deux bonhommes ici qui chicanent. Dans votre cas, vous avez une femme et un homme. Hein? Je pense qu'il est après à chicaner, là, OK. Fait qu'on m'a enlevé mes bonhommes comme ça, là. Vous avez des paroles explosives, vous avez des paroles retenues, des paroles superficielles, silence, le boudé, des paroles abusives ou décourageantes, des paroles sarcastiques ou évasives, des paroles contre-plaignantes ou défensives. Sixièmement, des paroles sous l'émotion. Septièmement, un message à double niveau. Aucun œil à œil, ça veut dire qu'on ne veut même pas se regarder en plein visage quand on se parle, on est trop gêné ou dans la bara. C'est parler à la place de l'autre, paroles inutiles, narguer, parler sans penser et faire le sourd d'oreille. Ça, vous avez tous peut-être passé un peu par là, non? Je sais qu'il y en a qui rient ici présentement et qui se donnent des coups de coude. Moi, j'ai un avantage sur vous autres, je sais que quand que je viens de frapper justement où ce qu'on vit, bien, je vois toujours un qui donne un coup de coude et puis maintenant on apporte l'attention, elle tire l'oreille et elle dit « Écoute, là, qu'est-ce qu'il dit? » Et puis, ça frappe justement là. Fait que je voulais vous montrer ça, que premièrement, qui est bien important, il faut communiquer avec Jésus, il faut que Jésus soit le centre de notre vie. Ça veut dire qu'une famille qui prie ensemble demeure ensemble. Et deuxièmement aussi, j'apporte à votre attention qu'il faut communiquer ensemble et savoir comment communiquer. Connaître comment communiquer. À cette heure ici, je vais passer justement quand il y avait une monitrice d'école de dimanche qui avait donné une étude un peu sur le mariage comme cela. Et puis, elle avait les enfants, je pense, de 4 ans, les petits garçons de 4 ans. Et puis, elle a demandé cette question ici, elle a demandé à sa classe, qu'est-ce que Jésus a dit concernant le mariage? Fait qu'un petit gars lève sa main, il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Et puis, je vous garantis, comme pasteur, des fois, quand les couples viennent voir dans mon bureau, puis ils disent « Pasteur, je veux me marier », puis je vois dans l'état qu'ils sont, puis qu'ils n'ont pas aucune connaissance dans quoi, quelle aventure qu'ils s'embarquent, je peux dire la même chose, « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais pour ça qu'on est ici, pour l'apprendre quoi faire ce soir. La famille, premièrement, est la structure la plus importante. Ça, c'est extrêmement important de réaliser cela. Deuxièmement, en détruisant la famille, on détruit la société. Troisièmement, elle doit être, la famille ou le foyer doit être un refuge, une protection ou un nid pour nous. Et quatrièmement, notre avancement ou croissement spirituel dépend sur notre relation familiale. Savez-vous qu'on ne juge pas la spiritualité d'une personne par la façon qu'il se comporte à l'Église? Tu as remarqué, à soir, tout le monde est spirituel, tout le monde est souriant, tout le monde est avenant, tout le monde est charmant, charmante. Avez-vous remarqué? Puis on dit, oh, man, il est nouveau parmi nous, c'est donc du bon monde spirituel, puis il chante, puis il a de l'air aimé le Seigneur. C'est tout beau, ça, puis j'apprécie cela, puis ça devrait exister. Mais ça arrive des fois. Peut-être que le mari où la femme va dire, « Sais-tu que quand que j'arrive à la maison, mon mari ou ma femme, c'est une autre personne que dans l'Église? C'est tout un autre homme une fois que j'arrive à la maison. Ou c'est tout une autre femme? » Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 3e chapitre qu'avant de choisir des anciens ou des diacres, avant de choisir des pasteurs, il dit, « Regarde comment ils se comportent à la maison. Si je veux savoir que si nos diacres sont spirituels, je vais voir leur femme. » Et puis en même temps, si vous voulez savoir si votre pasteur est spirituel, je vous donne la permission d'aller parler à ma femme, « Don't say a word. » Elle est bien soumise. Elle va m'écouter et elle ne dira pas un mot. On va en parler plus loin là-dessus. À cette heure, en parlant de venir voir la famille du pasteur Sam, je vais seulement vous mentionner que ça fait 26 ans, 27 ans que nous sommes mariés. Ça va faire 27 ans cette année, au mois de juin. 27 years. Ah oui, 27 ans, c'est ça. Je demandais au boss pour être sûr. Ça fait bien 27 ans, parce que je me semble qu'on vient de fêter notre 25e, ça fait 2 ans, je pense. 25 et 2 fait 27, c'est ça. Bon, on l'a. Je dis, on est toujours en accord, nous autres. Et puis, j'ai 3 enfants. J'ai une fille qui est ici ce soir avec son mari Roger, qui est marié à un petit garçon de 3 ans, puis une autre petite fille de 8 mois, 9 mois. Et puis aussi, il y a Marc, mon garçon, qui se trouve être mon associé ici, qui est dans le ministère, qui est marié, puis une petite fille de 5 mois, Ashley. Et aussi, j'ai une autre fille, Christine, de 21 ans. Elle vient juste d'avoir ses 21 ans la semaine dernière, et puis est aux études bibliques en Ontario. Fait que si jamais que vous pensez que je ne parle pas d'expérience, laissez-moi vous dire que j'ai un petit peu d'expérience avec des enfants comme Janice, Mark et Christine. Des bons enfants. Mais ça se peut que je vous rencontre des affaires qu'ils ont faites, par exemple, avant qu'on termine le séminaire ensemble. Fait que j'ai eu une expérience aussi sur le côté de la famille. Et puis, je crois que la famille est extrêmement importante. La famille est ce qui est le plus cher à mon cœur. Et je crois qu'en général, que chaque personne devrait être heureux dans le foyer et mérite d'être heureux dans le foyer. Mais le problème que nous avons, c'est qu'il y a une différence que je vais vous montrer tantôt entre un foyer chrétien et un foyer rempli de chrétiens. Un foyer chrétien, c'est un foyer qui se trouve appliquer les principes bibliques et vit dans l'harmonie. Tandis qu'un foyer rempli de chrétiens, ça, c'est des chrétiens qui demeurent tous sur le même toit, à la même adresse, mais il y a de la chicane dans la cabane. Parce que tu as des chrétiens sur le même toit, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un foyer chrétien. Parce que la seule personne qui peut réellement dire que nous avons un foyer chrétien, c'est la personne qui va appliquer les principes bibliques qu'on a mentionnés tantôt, qui met la Bible en pratique, la parole de Dieu, et qui bâtit sur le roc. Et je dois vous dire qu'il y a eu des fois dans ma vie que j'ai plutôt vécu l'expérience d'être un foyer rempli de chrétiens au lieu d'un foyer de chrétiens, et tu n'arrives pas après 27 ans de mariage de dire que ça a toujours été rose, beau, comme le beau printemps, qui n'a jamais eu de difficultés, jamais eu d'arguments, jamais eu de désaccords, jamais eu de problèmes. On a eu. Mais on a toujours tenté que malgré toutes ces tempêtes, tous ces torrents, toutes ces pluies-là, tous les mauvais temps, on a tenté de revenir au principe biblique et l'appliquer, et on a passé en travers. Et Dieu nous a bénis et a respecté le fait que nous avons appuyé sur la parole et nos 3 enfants suivent le Seigneur aujourd'hui. Je dois mentionner qu'une des plus grandes bénédictions que j'ai eues dans ma vie, c'est lorsque ma fille Janice, qui est ici ce soir, lorsque c'est venu le temps d'annoncer son mariage, a dit, « Dad, j'aimerais que ce soit toi qui nous donne les cours de préparation de mariage. » Ça, ça m'a béni parce qu'elle a vécu avec moi jusqu'à l'âge de ce, jusqu'à temps qu'elle se marie. Puis elle sait quelle sorte de type que je suis. Et malgré mes erreurs et mes faiblesses, Malgré que les temps que je, difficiles, je passe en travers, mais a vu quand même la main du Seigneur sur nous autres et comment il nous a dirigés et le succès que nous avons eu dans notre famille. Et puis, elle m'a demandé d'être la personne qui doit lui donner les cours de préparation en mariage. Et c'est une grande bénédiction, ça, faire pour moi. Parce que généralement, quand tu as vécu une vingtaine d'années avec quelqu'un, c'est la dernière personne que tu vas voir pour des renseignements parce que tu sais que... qui ont certaines faiblesses dans leur vie, mais je l'apprécie qu'elle le fait. J'aimerais vous lire ceci. Qu'est-ce qu'est la définition d'une famille? La famille est une institution où devrait régner une ambiance d'appui moral, d'encouragement et d'occasion favorable à la croissance, ce qui amènera chacun de ses membres à la connaissance, la compréhension et l'acceptation de Dieu par Jésus-Christ. Ainsi qu'à la connaissance, la compréhension et l'acceptation de lui-même, lequel possédera alors une conception positive de la vie. En autre mot, que la famille est là comme une institution pour nous aider dans notre marche spirituelle, de nous faire connaître Jésus et de se faire connaître nous-mêmes et comprendre et accepter et nous donner une conception positive de la vie. Ceci est un but idéal que l'on peut atteindre. Les membres d'une famille se sentent responsables les uns des autres et qu'ils le réalisent ou non, ils en sont affectés. La majorité de nous, nous vivons des expériences difficiles dues à l'influence de notre famille dans le passé. Et avant d'aller plus loin dans l'introduction, j'aimerais vous dire ceci. Le fait que personne ici, une fois qu'ils ont connu Jésus comme leur sauveur personnel et qu'ils ont eu l'expérience avec Jésus et sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, et une fois que tu naisses de nouveau, ça veut dire que tu es né dans la famille de Dieu. Et je veux que vous sachiez qu'à partir de cette fin de semaine, avec la connaissance biblique que vous allez avoir ici en fin de semaine concernant votre foyer, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Je veux que vous sachiez cela. Ne soyez pas dans l'ignorance que vous n'avez aucune raison pour être influencé par votre famille intérieure. Car voyez-vous, la journée que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, il y a un miracle qui s'est produit dans votre vie. Il a pris la vieille créature, il l'a mis de côté, il a fait de vous une nouvelle créature qui vous a placé dans une nouvelle famille, qui est la famille de Jésus, et j'ai aucune raison, en cause que j'ai été libéré de cela, j'ai aucune raison d'être influencé par les mauvaises habitudes de mon ancienne famille, pour aucune raison, car j'appartiens plus, j'ai aucun attachement sur ce côté-là et aucune influence. Mon influence à cette heure, c'est avec la parole de Dieu et le futur et le Seigneur et l'Esprit de Dieu. Amen. On est sans excuse, sans excuse. Et lorsque quelqu'un vient me voir à mon bureau, bien, je suis toujours en colère, je suis colérique parce que mon père est colérique. Ton père n'est plus ton père, c'est le Seigneur qui est ton père. On n'a aucune raison de se faire influencer, puis c'est seulement une excuse qu'on se fait, ça. Mais je crois qu'on peut tous changer, parce qu'à cette heure, on se laisse influencer par la parole et par l'Esprit de Dieu. Fait que dans notre famille, chacun a le choix d'influencer sur le côté négatif ou sur le côté positif. Et c'est à nous ici, avec cette fin de semaine, qu'on va pouvoir influencer les gens sur le côté positif. Incidemment, je dois mentionner concernant le foyer que ça devrait être les parents qui doivent établir l'atmosphère du foyer et jamais les enfants. Je dis ça en passant là. Parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous allez avoir l'opposition des fois pour l'appliquer. Et je veux vous dire ça en passant que la responsabilité de l'atmosphère du foyer est sur les parents et non pas sur les enfants. À ce temps, on va parler du foyer chrétien versus le foyer rempli de chrétiens. On va juste passer ça vitement, parce qu'il peut y avoir une série de cours sur chaque sujet qui est mentionné ici, mais je vous demanderai que qu'est-ce que vous allez apprendre en fin de semaine de toujours avoir la sagesse et l'appliquer avec sagesse. L'appliquer avec prière, l'appliquer avec discernement. Parce que les choses que vous allez apprendre peuvent avoir deux réactions dépendant de votre position présentement et votre attitude peut avoir deux différentes réactions. Quelqu'un qui est extrêmement autoritaire, à cause de ce qu'il va apprendre, il peut devenir trop, je peux me servir du terme, lousse. Et puis l'autre, qu'il est peut-être pas assez autoritaire, à cause qu'il va apprendre, peut devenir trop autoritaire. Et vous le savez que des enfants ou du monde, c'est comme un arbre. On a des racines, un arbre. Même on est considéré comme un arbre dans la Bible quand il dit qu'il faut que l'arbre porte des bons fruits. Puis on devrait porter des fruits. Et puis là, je vais vous démontrer que ce qui peut y arriver, on ne passera pas tout cela en détail, mais juste pour vous donner une idée, que vous voyez ici la première, ça, c'est des situations qu'on appelle dépressogéniques. À cette heure, si vous cherchez ça dans la Bible, vous ne le trouverez pas, c'est une invention un peu, ça, dépressogénique, que ce que moi, j'appelle dépressogénique. Vous allez voir que Pasteur Sam met son propre vocabulaire, des fois, pour les gens qui ne connaissent le sage. Mais savez-vous qu'en anglais, c'était bien mentionné, dépressogénique. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais je l'ai mis là quand même. Mais si c'est trop autoritaire, vous allez voir ici que ce que ça peut faire alentour, ça devient une vie étouffante, rigide, un cocoon protecteur. Ça coupe les communications, supprime les émotions. On va souvent surréagir. Les racines souvent sont dans les traditions anciennes. Les parents sont plutôt concernés sur l'apparence, le statut social, la réputation. Et puis, on va souvent être trop exigeant. Ça, c'est un foyer qui peut devenir trop autoritaire, va empêcher que l'arbre puisse grandir. À cette heure, vous avez ici un autre, le foyer sans direction. Ça, c'est lorsqu'on laisse tout passer, tout aller. Puis là, chaque membre est concerné seulement pour lui-même. Les vignes de l'extérieur peuvent être étouffées à cause de l'influence de l'extérieur du foyer. Il n'y a pas de règles à suivre, il n'y a pas d'unité. Ils n'ont pas de chemin, ils n'ont pas de direction, ils n'ont aucun but, sont susceptibles aux attaques de l'extérieur et les racines deviennent lâches, les traditions sont rejetées. Fait que vous voyez de deux côtés que si c'est trop autoritaire, vous pouvez étouffer l'arbre par la rigidité ou encore si c'est passé, il n'y a aucune direction, vous voyez que l'influence d'extérieur peut nuire le foyer. À cette heure, on a ici, par exemple, l'arbre idéal. Ça, c'est des racines solides. L'arbre idéal. Vous avez la conduite et l'instruction, la liberté de découvrir et d'exercer les dons spirituels, la liberté de grandir et être indépendant, flexibilité, croissance personnelle et familiale encouragée, communication ouverte, nouvelles idées encouragées, aider les uns les autres, enseignement biblique vécu et appliqué, ça c'est bien important pour l'agrandissement de l'arbre, l'amour, l'encouragement, l'unité familiale, exemple de responsabilité pris sur les parents et aussi le respect mutuel. Ça c'est bâtir l'estime personnelle de chaque personne et l'arbre doit grandir en conséquence. Et c'est là qu'on va essayer d'apprendre à pouvoir s'orienter vers cet arbre et appliquer les principes qui est mentionné sur cette arbre pendant cette fin de semaine. Alors, je dois vous mentionner que le mariage est ordonné de Dieu. Premièrement, si vous voulez regarder dans Genèse, le 2e chapitre, 18e verset, ça dit ici que je ferai à l'homme une aide semblable à lui. Et les deux, plus tard, sont devenus une seule chair. Fait que c'est la volonté de Dieu avant le mariage, c'est pour ça qu'il a créé la femme pour être une aide à l'homme. 1 Timothée 5,14, je dis, « Je veux donc que les jeunes se marient. » Je veux donc que les jeunes se marient. Hébreux 13,4, « Que le mariage soit honoré de tous. » Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est le contraire. On n'a aucun honneur pour le mariage. Vous savez que les faces plates et les répliques que vous allez avoir si jamais que vous dites à quelqu'un, vous allez vous marier. Quand un jeune couple va aller annoncer à ses chums de ce monde, « Ah, on se marie le 1er juillet, quelque chose de genre-là. T'es pas fou de te marier, qu'est-ce que tu fais là? » Puis on commence à toutes sortes de faces plates concernant le mariage. Le mariage n'est plus honoré du tout aujourd'hui. Mais la Bible dit bien qu'on devra honorer le mariage. C'est une institution sacrée qui est ordonnée de Dieu et que ça devra être respecté. Fait qu'on voit que c'est bien biblique de se marier. Deuxièmement, tu as le but du mariage. Puis là, je vais vous citer des versets que vous pouvez écrire pour, parce que si on regarde dans la Bible pour chaque verset, on va perdre de temps. Mais vous pouvez regarder ici dans Genèse 1, 28, vous pouvez l'écrire, le lire chez vous, en faire comme un genre de dévotion personnelle. Ça dit qu'un des premiers buts du mariage, c'est de multiplier et remplir la terre. Genèse 2, 18. C'est dans le but d'avoir, de l'accompagner. Seigneur, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour éviter la fornication. En voulant dire, un des buts du mariage, c'est pour éviter le péché. Incidemment, si je peux avoir votre attention, je l'enseigne, je le maintiens et je le dis aujourd'hui, malgré que ce n'est pas à mode, qu'on devra s'abstenir de relations sexuelles hors du mariage. Et l'apôtre Paul il a dit dans 1 Corinthiens 7e chapitre, on va en parler plus longuement demain soir après le banquet, on va avoir un bon temps ensemble, on va parler de sa sexualité, et puis on va voir, il n'y aura pas d'écran demain soir. Quelqu'un dit « Amen », il n'y aura pas d'écran. Mais le fait est ceci, que l'apôtre Paul a dit que si tu ne peux pas t'abstenir, il dit « tu devrais te marier ». Il y a des gens qui vont dire des fois « devrais-tu me marier juste pour ça? » Mais la Bible dit que si tu ne peux pas t'abstenir, marie-toi. On va en parler plus tard. Quatrièmement, c'est pour la sécurité aussi. Dans Matthieu 19e chapitre, verset 3 à 9, Matthieu 19, 3 à 9, ça nous dit que le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. La raison pour cela, c'est dans le but que nous puissions avoir une sécurité, qu'on peut se fier sur notre épouse, on peut se fier sur notre époux, c'est pour l'éternité. Incidemment, comme j'ai mentionné, comme chrétien, si on applique les principes bibliques, que tu n'as aucune relation sexuelle hors du mariage, et une fois que tu es chrétien, que tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, et tu connais les principes bibliques, que aussi, tu ne devras pas te divorcer. Ça ne devra pas faire partie du vocabulaire de deux chrétiens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Je crois que tout s'arrange si on va avoir des bonnes intentions à appliquer les principes bibliques. On va penser au type qui, une femme, parlait à une autre femme de l'église, puis cette femme-là qui venait à l'église avait beaucoup de difficultés avec son mari. Son mari donnait beaucoup de misère, puis la persécutait. Et puis elle dit, « T'as jamais pensé au divorce? » Elle dit, « Moi, comme chrétienne, jamais je vais penser au divorce. Meurtre, oui, mais divorce, non. » Car si vous me demanderiez, qu'est-ce qui est le rôle principal de l'ennemi de notre âme, Satan? Qu'est-ce qui est son rôle principal? Son rôle principal, c'est de venir et de détruire la famille. S'il peut détruire la famille, il détruit la société, puis il détruit aussi l'Église. Car la famille est le noyau de la société, le maintien de la société, le maintien de la civilisation même. Puis si tu peux détruire la famille, c'est là qu'on va tous être affectés psychologiquement. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes et des jeunes dans la confusion de notre société aujourd'hui à cause de la destruction de la famille. Tout le monde est affecté quand la famille est détruite. Et le but de Satan, c'est de trouver tout, se servir de toute séduction possible, de toute manière, à venir et détruire la famille. Il nous haït.
Pourquoi qu'il nous haït? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et puis, il ne veut pas qu'on reproduise. Mais comme qu'il nous haït à cause que nous sommes à l'image de Dieu, il veut anéantir l'humanité s'il peut. Et une des raisons qu'il va le faire, c'est en essayant de détruire le contexte de la famille, la structure de la famille. Pour ça qu'il va essayer de proclamer l'acceptation de l'homosexualité. Si tout le monde devient homosexuel, il n'y aurait plus de famille. Plus de famille, plus d'enfants. Plus d'enfants, la destruction totale de la civilisation. Puis il faut réaliser cela, que quand il y a un désaccord entre nos deux, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre des esprits méchants dans les lieux célestes qui cherchent à influencer la destruction de la famille. En ce temps, il y a trois problèmes majeurs qui détruisent la famille. Trois problèmes majeurs. Et selon mon expérience et ce que j'ai lu, je vais vous citer les trois problèmes. Le premier problème, c'est les beaux-parents. Y a-t-il des belles-mères et des beaux-pères ici à soir? Premier problème, c'est les beaux-parents. Le deuxième, c'est les dettes. L'aspect matériel du mariage. Et le troisième, c'est le sexe. Les beaux-parents, les dettes et le sexe. Et puis, on va regarder premièrement, avant de terminer, puis rentrer dans notre deuxième session, concernant les beaux-parents. Vous êtes surpris, puis la majorité des gens sont surpris quand que je leur dis, faites bien attention quand je donne des cours de préparation de mariage à vos parents. Je sais que les parents apprécient peut-être pas ça, que je leur dis cela. Puis d'ailleurs, je leur dis, bien, dites-les pas à vos parents que j'ai dit ça. Mais méfiez-vous de vos parents. C'est pas pour rien que des histoires de belle-mère. Et puis savez-vous que le premier commandement que Dieu a donné dans la Bible, savez-vous qu'est-ce que c'est? Tu laisses ton père et ta mère. Il y en a une qui vient de passer à sa belle-mère. Amen! Savez-vous que quand que j'ai conseillé Roger Janis, j'étais obligé de porter deux chapeaux. J'avais le chapeau de pasteur comme conseiller, mais en même temps, j'étais son père. Puis là, j'étais obligé de dire, là, je te parle comme pasteur, viens pas voir ton père. Parce que voyez-vous, il n'y a jamais, en général, là, il n'y a jamais un gars assez bon pour notre fille, puis il n'y a jamais une fille assez bon pour notre gars. Ouais. Puis la majorité du temps, la réaction est toujours un peu négative quand que nos enfants vont annoncer qu'ils sortent avec un gars ou avec une certaine fille. Puis parce qu'on les aime. Et puis c'est naturel, on les aime, on veut les protéger. Et puis en plus, si jamais qu'il y a des accords entre les deux, et puis que la fille va prendre le téléphone pour avoir appelé sa mère, c'est là que je savais que c'était un gars comme ça, lui. Pourtant, j'avais donc pressentiment. Puis là, au lieu d'essayer de réconcilier, elle va plutôt mettre d'autres huiles dans le feu et empirer la situation. Un père va faire la même chose, il veut protéger. Mais je vais vous donner un exemple. Roger, il a une très bonne position, et puis il étudie à l'université, puis il a une très bonne position dans une des banques ici à Montréal. Et puis, il parle de s'acheter une maison, tout va bien. Il a de la parenté dans le bout de Saskatchewan ou à l'Alberta. Et puis, qu'est-ce que vous penseriez que je dirais tout à coup qu'il aurait hérité un morceau de terre dans le bois là-bas, dans le nord d'Alberta? Et puis qu'il vient me voir tout à coup, puis il va voir Janice, puis il dit, « Je ressens là que on devrait tout laisser à job, puis ça allait défricher ce terrain-là dans le bois, et puis commencer à vivre direct de sur la terre. » Puis elle, « Ça ne me tente pas de laisser tout le confort que j'ai présentement, ma famille et tout ça. » Puis là, la grosse chicane prend entre les deux. Elle vient me voir et elle dit, pas. Elle dit, Roger, il vient d'hériter un morceau de terre dans le nord d'Alberta, puis il veut s'acheter une hache, là, et puis un vieux cheval, puis aller défricher le bois là-bas, et puis aller vivre sur la terre. Comme père, qu'est-ce que vous pensez que je vais dire, moi? Je vais dire, amène jamais ma fille et les petits-enfants à crever dans le nord comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu as une belle job, des promotions, fais un bon salaire, tu vas t'acheter une maison. Tu vas aller dans ce coin-là? Mais tout à coup, que pendant qu'il va creuser pour un puits, il frappe un puits d'huile et devient millionnaire. Là, je l'aurai empêché d'être un millionnaire. Voyez-vous? Dieu a un plan et un dessein pour les autres. Puis j'ai été obligé d'y dire à Janice, j'ai dit, il se trouve être ton mari avant que moi je suis ton père. Tu trouves être sa femme avant que tu es ma fille. Puis si jamais qu'il y a un désaccord entre nous deux, tu es obligé de prendre la part de ton mari. OK? Puis là, c'est là que je remets le chapeau de ton père, puis là, je partais. Fait que juste que, laissez savoir que ce n'était pas difficile pour moi de dire ça, mais j'appliquais les principes bibliques ici. Car le premier commandement, tu quitteras ton père et ta mère. Et puis, pas seulement les laisser géographiquement, mais les laisser psychologiquement, parce que le téléphone est trop de longue distance. Oui. Et ça ne veut pas dire que tu ne devras pas avoir respect à tes beaux-parents et les beaux-parents ne devraient pas avoir le respect pour leurs enfants. Je crois qu'ils devraient les aimer, puis on devrait communiquer ensemble, puis on devrait avoir un bon temps ensemble. Mais je parle quand il vient à un désaccord entre l'homme et la femme, on ne devra jamais demander des conseils à nos parents, mais aller voir plutôt le pasteur ou quelqu'un d'autre qu'on respecte, qui n'est pas impliqué, qui est impartial à la situation. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Là-dessus. Tu sais que en arrière de chaque homme qui a du succès dans sa vie, qu'est-ce qu'il y a? Une quoi? Une femme? Non. Il y a une belle-mère qui est surprise. Puis une des premières chicanes, ou les premiers désaccords, les premières discussions qui peuvent arriver, c'est lorsque le type, ou le jeune couple marié, ou le jeune homme marié, le nouveau marié, s'assied à la table pour le premier pas que sa femme va faire. Puis il va dire, « Ma mère, c'est pas comme ça qu'elle faisait ça, elle. » Là, la chicane commence. Ou mais donc, que quand que lui va essayer de peinturer ou réparer quelque chose, elle va dire, c'est pas comme ça, mon père faisait ça, lui. Ouais. Et puis là, ça commence. Fait que je vous demande tous de faire vos propres erreurs avant de même demander des conseils à papa et maman. C'est bien important. Et puis c'est ça qui est l'introduction à la famille. C'est de réaliser que vous êtes maintenant une famille, mari et femme, ensemble devenus une seule chair, avec aucune influence du passé, mais seulement avec l'influence de la parole de Dieu, sous la direction de l'Esprit-Saint, à connaître la volonté de Jésus pour chacune de nos vies. C'est la seule influence qui devrait exister. Et puis pour nos parents et notre environnement, on leur doit l'amour, on leur doit le respect, on devra avoir un très bon temps ensemble. Moi, je suis bien à l'aise avec ma famille, avec mes enfants, et puis il n'y a rien qui fait plus plaisir lorsqu'on est tous ensemble. Mais mon influence arrête là, lorsqu'il y a un désaccord, et puis je suis obligé de prendre part de l'un ou de l'autre. Les autres sont obligés de trouver la volonté de Jésus sous la direction de l'Esprit-Saint pour eux-mêmes. Et agir selon la dictée de leur cœur et non pas la dictée des parents. Parce que les deux deviennent une seule chair et forment une seule vie dans le Seigneur. Et c'est ça qui se trouve être l'institution du mariage. Gloire à Dieu.